Asakara. I go beat to go be like you get accident. Asakara. You don't know me. Asakara. Wait, make I come out to my dress. Asakara. You see, enough you do nothing. Asakara Loji. We got a song for them. We just sing them like this. We go say,
Il est midi sur Radio G.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je vous ai compris.
Les origines de la 5ème République, c'est quand même une République qui est née dans les complots barbouzards, dans la violence et dans l'arbitraire. Aujourd'hui, c'est insupportable pour beaucoup de gens. La revendication d'un changement de république va devenir majoritaire en France, c'est certain. Il faudra se poser ce problème de l'élaboration d'un autre système de fonctionnement républicain.
Salut les amis, la 5ème République est un régime peu démocratique qui fonctionne de plus en plus mal. Un régime où les énormes pouvoirs du monarque présidentiel débordent sur le législatif et le judiciaire. Un régime où le Parlement est peu représentatif. Or, on ne nous le raconte jamais, mais la 5ème République est née dans un coup d'État militaire. De Gaulle était un putschiste et un dictateur, quoi qu'il en ait dit.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Car en 1958, c'est bien un putsch fomenté par des militaires et divers comploteurs qui abat la 4ème République et met le général au pouvoir. Certes, l'histoire de France a connu d'autres coups d'État militaires, comme celui de Napoléon Bonaparte, Napoléon III, Pétain, le quarteron de généraux putschistes de 61, et donc De Gaulle, qui nous a laissé cette 5ème République taillée pour et par lui en 58. Salut André.
Bonjour à tous.
Alors André, De Gaulle arrive au pouvoir sur les épaules des parachutistes avec le coup du 13 mai 58, dans un putsch et des complots qui ne disent toujours pas leur nom.
L'habileté du 13 mai 58 et de Gaulle, c'est d'arriver au pouvoir sans avoir à faire le coup d'État. Le coup d'État était préparé, il n'y a pas eu besoin de débarquer les parachutistes en France, puisque les responsables de la 4ème République se sont couchés. Et de peur, ont cédé la place à De Gaulle. L'histoire que nous allons raconter est pleine de complots et de comploteurs. Désolé, c'est de l'histoire. C'est pas une théorie, c'est pas une croyance obscure. Il y a des complots. C'est par un complot que De Gaulle est arrivé au pouvoir et a changé la République et a institué un système quasi monarchique.
L'histoire de la 5ème République s'inscrit dans l'agonie de la 4ème, régime né en 46 et qui va pourrir dans les guerres coloniales, notamment l'épouvantable guerre d'Algérie qui s'étire officiellement de 54 à 62. Car la France d'après-guerre reste une puissance coloniale avec de nombreuses colonies en Asie et en Afrique, dont l'Algérie, conquise en 1830, est divisée en trois départements français. Et même si toutes les lois de la République ne s'appliquent pas dans cette colonie, l'Algérie, c'est la France. Et pour raconter ce pan d'histoire de France, il faut donc voir ce qui s'est passé en Algérie française, André.
À la libération, on rédige une 4ème République, donc une autre constitution. Dans cette constitution, l'Empire colonial français devient l'Union française. Mais en réalité, il y a toujours les colonies. Mais il se pose évidemment le problème de l'indépendance, parce qu'il y a dans certains pays colonisés des élites nationalistes qui veulent leur indépendance. En Algérie, d'ailleurs, il y a une opposition à l'Algérie coloniale, car c'est une colonie. Alors, c'est une colonie un peu particulière. C'est la seule colonie française de peuplement. Il y a, au début des années 50, il y a 900 000 Européens et 10 millions d'Algériens, enfin d'Algériens qui ne s'appellent plus indigènes dans les nouvelles institutions et qui s'appellent musulmans.
FSNA, français de souche nord-africaine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on les désignait dans l'armée.
Comme c'était une colonie de peuplement, entre guillemets, européen, pas forcément français. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup de gens d'origine française, par exemple, des déportés en 1848. Après la révolte ouvrière de juin 1948, il y a eu des gens déportés en Algérie. Mais surtout, après la Commune de Paris, beaucoup de communards ont été déportés en Algérie. Et puis également, des Alsaciens et des Lorrains, fuyant l'occupation allemande, sont venus se réfugier en Algérie, plus des immigrés, mais y compris des immigrés allemands. Et puis, il y a eu aussi des Espagnols de différentes époques. Beaucoup aussi, après le coup d'État de Franco, qui institue une dictature en 1939, beaucoup de républicains espagnols, ou même d'Espagnols non républicains, se réfugient en Afrique du Nord.
Des Maltais, des Italiens.
Des gens, on va dire, du pourtour de la Méditerranée. Il faut ajouter à cette population d'origine européenne, globalement, il faut ajouter les Juifs algériens qui ont eu la citoyenneté française par la loi, le décret Crémieux. Et ces gens qui étaient en Algérie bien avant la colonisation, et même, pour certains, bien avant même l'invasion arabe du 7e siècle, qui étaient souvent des berbères ayant adopté la religion juive, ces gens ont vécu dans l'Algérie arabe, turque, etc., jusqu'à la colonisation française, et la République française décide d'en faire des citoyens français. Mais pas les Arabes, pas les musulmans, entre guillemets. Donc il y a deux grands groupes, en quelque sorte, dans cette colonie qui ne veut pas dire son nom. Il y a les Français qui ont tous leurs droits civiques et politiques, et les indigènes, que l'on baptise musulmans, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs dans une république laïque, théoriquement, la distinction religieuse est tout à fait remarquable, Globalement, c'est une colonisation, donc les meilleures terres sont confisquées aux populations arabes qui sont rejetées dans des terres moins bonnes, des terres de collines, de montagnes, etc., de petites économies agro-pastorales assez misérables. Et les Européens s'installent donc dans ces riches plaines du Nord, puisque l'Algérie, c'est un vaste territoire comportant les trois départements oranais, algérois et constantinois, au nord, mais tout le reste au sud de l'Atlas saharien, il y a le Grand Sahara, un immense territoire où là il y a des populations touareg, bédouines, etc., très dispersées sur un très vaste territoire. Ce territoire saharien aura une grande importance dans l'histoire de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie.
Parce que c'est bien pratique pour y faire des expériences de bombes nucléaires, et puis surtout parce qu'on y trouve du gaz et du pétrole.
Mais enfin, les événements donc d'Algérie, c'est-à-dire la guerre d'indépendance, a quand même eu lieu essentiellement au nord, dans les régions montagneuses, Kabylie, les Aurès, etc., et dans les villes d'Algérie.
Dans la colonie algérienne, lois et droits de la République, qui s'appliquent en métropole, ne concernent pas les 10 millions d'indigènes citoyens de seconde classe. En Algérie, on vote avec un système électoral à deux collèges. Les votes du collège, qui représentent les presque 1 million de pieds noirs, pèsent plus lourd que les voix du collège représentant les 10 millions de musulmans, comme on disait à l'époque. Et de toute façon, ces scrutins sont souvent truqués.
C'est en 47 que on va établir un statut de l'Algérie avec ces deux collèges, effectivement. Un collège pour les populations musulmanes qui n'a pas ses droits politiques entiers, et un collège pour la population européenne. Ce système, qui déjà n'est pas tout à fait démocratique, il ne sera pas appliqué. Les gros colons, ceux qui dirigent politiquement l'Algérie, vont tout faire pour empêcher le fonctionnement de ce système, qui est déjà pas complètement satisfaisant, mais qui va pas fonctionner du tout.
Ces 9 millions d'Arabes, de musulmans, de FSNA, de Français de souche nord-africaine, il y a quand même des moments où ils sont français. c'est quand il faut faire les guerres de la France. Et cette Deuxième Guerre mondiale, elle va pas mal quand même les ébranler, parce que ces gens qui ont laissé leur peau pour la France à Monte Cassino et ailleurs aimeraient bien être traités en temps de paix aussi comme des Français normaux. Or, tu vas sûrement parler du massacre de Sétif, Kelma et Kerata, qui a eu le 8 mai 45, pendant qu'on défile victorieusement sur les Champs-Élysées et sous l'Arc de Triomphe en métropole. Il y a une manifestation ce 8 mai 45 en Algérie qui tourne très très mal et qui va engendrer une répression féroce qui va faire des milliers de morts parmi les Arabes.
Sétif marque le début d'une prise de conscience chez beaucoup d'Algériens, et on peut dire qu'il y a beaucoup d'indépendantistes algériens et de combattants nationalistes algériens qui vont démarrer leur prise de conscience de Sétif. 8 mai 45, effectivement, il y a une manifestation pacifique de scouts algériens, mais on sort des drapeaux algériens. Là, c'est insupportable pour la population européenne, pieds noirs de Sétif. On tire sur ces jeunes algériens, peut-être nationalistes, mais enfin qui manifestaient pacifiquement. Et là, il va y avoir un retour de violence, c'est-à-dire que pour venger ces morts de la manifestation, des Algériens s'en prennent aux Européens. Et là, la répression va être d'une férocité. On va utiliser l'armée pour tirer, et même la marine, pour tirer à canon, etc., sur les populations. On ne sait pas combien il y aura de morts, puisque, après tout, c'était des gens dont l'existence civile était à peine assurée dans cette grande république. 6000 morts, 8000 morts, les chiffres sont contestés, mais c'est considérable. Pour, on va dire, 20 ou 30 Européens tués, 6000 Algériens vont être massacrés, hein. Mais revenons au statut de 47. Effectivement, il est complètement saboté par les gens qui dirigent la colonie, c'est-à-dire les gros colons, pour faire élire des gens à la botte, généralement des caïds, bachagas, des chefferies traditionnelles, qui n'ont aucune représentativité démocratique, mais qui ont l'avantage de dire toujours oui. Et on les appelait d'ailleurs les bénis oui-oui. Parce que, en fait, c'est la droite, la grosse colonie qui dirige en Algérie. L'écho d'Alger appartient à De Sérigny, qui est d'ailleurs un pétainiste pas honteux, hein, déclaré, hein. Il représente les gros colonies, les schiaffinos, les gens qui possèdent d'immenses terres à blé ou terres de vigne, etc. Enfin, ou exportateurs, importateurs. Bref, la colonie est aux mains des gros blancs. Alors, il y a une multitude de petits blancs, de petits fonctionnaires, de petits paysans, même pieds noirs, qui, eux, ne vivent pas dans l'opulence, hein, qui sont des gens qui travaillent et qui sont laborieux, honnêtes, etc. Mais c'est pas eux qui font la politique. Ceux qui font la politique, ce sont les députés. Sans doute, ces gens ont voté pour des radicaux, des socialos, etc., qui ont un point de vue colonial, qui vont envoyer au Parlement français, en fin de compte, des députés qui sont le lobby colonial dans la 4e République.
Les gros propriétaires, les gros blancs, c'est une minorité parmi les blancs. Parmi ces pieds noirs, en fait, beaucoup de pauvres, beaucoup de gens modestes, ces pieds noirs, pour la plupart d'entre eux, sont des immigrés, hein. Et d'ailleurs, ils sont assez bronzés, souvent, hein.
Oui, ce sont des gens modestes. Ils vont être d'ailleurs victimes de l'indépendance, parce qu'en fait, ils vont devoir partir. Alors que rien n'obligeait, en fin de compte, ces gens qui se considéraient comme Algériens de partir. On aurait pu avoir d'autres solutions. Ce qui est grave, c'est que ce sont toujours les ultranationalistes, ultra-colonisateurs, etc., qui vont l'emporter. Et qui vont même entraîner dans leur sillage ces pauvres gens, souvent, qui vont confondre, en fait, l'intérêt des gros colonisateurs avec leur intérêt propre. Il faut dire aussi deux choses. La première, c'est que ces gens, je parle des Européens d'Algérie, se considèrent comme Algériens parce qu'ils sont là souvent depuis 3 ou 4 générations. Leurs ancêtres sont au cimetière, comme disait le curé de Bab-el-Oued. Ils sont nés, leur père est né, leur grand-père est né en Algérie. Ils se considèrent comme Algériens, c'est leur terre en quelque sorte. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'à côté d'eux, vivant à côté d'eux, il y a des Algériens musulmans, on va les appeler comme ça par facilité. Et ces gens, eux, ne sont pas considérés comme les Européens. À travail égal, ils gagnent moins. Ils sont pour l'essentiel prolétaires. Bien sûr, il s'est créé une petite bourgeoisie algérienne. Des leaders du nationalisme algérien étaient pharmaciens. Il y avait des gens qui étaient devenus docteurs ou avocats. Mais c'est une minorité. Alors, à ceux-là, la France veut bien accorder la citoyenneté française à une toute petite minorité, mais à la large majorité des Algériens. La France y est toujours, en tout cas les institutions républicaines représentatives s'y sont toujours refusées, parce qu'il y a 10 fois plus d'Algériens de souche, etc., que d'Européens.
Autre chose à remarquer sur ces territoires dont on dit qu'ils sont partie intégrante de la République, mais bon. En métropole, les femmes françaises acquièrent le droit de vote en 1944 à la Libération. C'est un droit qui ne s'applique pas aux trois départements algériens. Plus de religion et pas tellement de laïcité finalement. Mais en tout cas, la femme algérienne ne vote pas dans cette Algérie coloniale.
Non, d'ailleurs, la France a relativement respecté en Algérie l'islam. Comme dans beaucoup de colonies, les choses traditionnelles, les chefferies, les tribus, les clans, on les garde. Pour gouverner un pays, c'est impeccable. On ménage l'islam, mais c'est bon, c'est pour les indigènes, en quelque sorte. Et ils ont le droit d'aller à la mosquée, ils ont le droit d'avoir leur droit, d'avoir leur juridiction, etc. Tant qu'ils ne font pas chier, en quelque sorte. On n'empêche pas les musulmans d'être musulmans. Tant qu'ils restent sous la domination française. Alors il se développe dès l'après-guerre un nationalisme qui au départ est un nationalisme qui veut emprunter des voies légales. Et d'ailleurs toute une partie de ce nationalisme ne souhaite pas la séparation avec la France. Il demande que les Algériens deviennent citoyens français. Il demande aussi qu'il y ait une sorte d'assimilation en quelque sorte et d'intégration dont ne veut absolument pas la République française. Ils sont trop nombreux. Donc il n'est pas question d'assimiler 10 millions. En plus, ils ont une démographie beaucoup plus dynamique que la démographie des Européens. Donc, pas question de leur accorder le droit. Et même, parmi ces nationalistes, il y a des nationalistes de gauche, d'extrême gauche, mais Saliadj, etc. C'était des gens qui étaient assez radicaux. Ils ne faisaient pas d'attentats, hein, mais ils étaient assez radicaux politiquement. Et on les pourchasse. On a pourchassé ces gens-là, on les a interdits, on a trafiqué leur représentativité dans les fameuses assemblées qui ne servaient à rien du tout, etc. En fait, la France gouverne avec un gouverneur général à Alger, qui est le représentant de la France, de l'exécutif français en Algérie. Et puis, il y a des relais, évidemment. Il y a quelques députés qui sont tous des députés du lobby colonial, quel que soit quasiment le parti politique, hein, en dehors, bien sûr, des communistes qui n'ont pas de députés. Il y a un parti communiste algérien aussi, d'ailleurs, mais il n'a pas de députés et sa représentativité est très réduite. En revanche, les autres partis sont tous, évidemment, des partis colonialistes, évidemment, radicaux, SFIO, le Parti Socialiste à l'époque est sur une ligne de colonisation. Alors bien sûr, pour la civilisation, pour l'éducation, pour l'évolution des populations. Mais enfin bon...
...1954, Indochine, on dira bientôt Vietnam. À Dien Bien Phu, les Vietmines écrasent l'armée française. Première défaite qui annonce la fin de l'empire colonial français.
Au jour de l'échéance, le cessez-le-feu en Indochine allait être proclamé. Au Palais des Nations, au cours d'une très sobre cérémonie, le général Del Tay signait au nom de la France les documents mettant fin aux hostilités au Vietnam et au Laos, et au nom du Viet Minh, M. Thach Quang Vu les parapète à son tour.
Dien Bien Phu est la défaite du corps expéditionnaire français en Indochine, au nord du Vietnam. Province du Tonkin, c'est une défaite militaire complète contre le Viet Minh, c'est-à-dire l'armée des nationalistes vietnamiens, dirigée par Ho Chi Minh, qui est un communiste. Et l'armée française est bel et bien battue, et d'ailleurs le gouvernement français est obligé, il s'agit de Pierre Mendès France, d'aller à une conférence internationale consacrant l'indépendance de la partie nord du Vietnam, le fameux accord de Genève. Alors ça a des conséquences considérables, aussi bien côté algérien que côté français. Côté algérien, les nationalistes prennent conscience que seule une lutte révolutionnaire, une insurrection armée, peut venir à bout de l'armée française et de l'occupation du système colonial. C'est pas un hasard si le début de l'insurrection algérienne, c'est le 1er novembre 1954, ça vient à la suite de cette défaite de Dien Bien Phu et des accords de Genève. Genève et Dien Bien Phu ont également une incidence considérable sur l'armée française. Certains officiers de l'armée française, ils n'ont pas digéré leur défaite. Hein. Et ils tirent les leçons de la défaite et vont en quelque sorte essayer de faire une armée nouvelle, des méthodes nouvelles, s'inspirant d'ailleurs des méthodes des Chinois et des Vietnamiens sur la guerre insurrectionnelle, la guerre populaire, contre-guerre avec une contre-propagande, système idéologique, psychologique, etc. Il va y avoir tout un système de l'armée là-dessus. Cette défaite est la matrice de l'armée qui va faire le coup d'État de 58.
Mais à noter que cette armée française qui va s'adapter, commet en Algérie suite à l'Indochine, une première erreur, c'est de croire qu'elle affronte des communistes en Algérie. Si elle a affronté des communistes au Vietnam ou en Indochine, ce sera une erreur de croire qu'elle a face à elle des communistes algériens.
Absolument, non, ce sont des nationalistes et concernant les idées communistes, ils en sont souvent assez éloignés. Mais pour les besoins de la propagande, il est nécessaire que l'ennemi soit communiste. Parce que d'abord, la France est engagée dans l'OTAN, une guerre globale avec les États-Unis contre l'URSS et contre le communisme. Pour avoir l'appui des États-Unis, il faut convaincre les États-Unis qu'il s'agit d'une guerre contre un ennemi communiste. Les Américains sont courants, ils sont pas dupes, hein, assez vite ils s'apercevront que non, le nationalisme algérien n'est pas un ennemi communiste. Mais c'est nécessaire. Il est également nécessaire de faire une guerre psychologique en France. Or, les principaux opposants à cette guerre coloniale sont les communistes, même si on verra, à certains moments, ils ont une stratégie un peu confuse. Il n'en reste pas moins que c'est eux les ennemis, et d'ailleurs, ils sont désignés par tous les gens qui sont partisans de l'Algérie française comme étant les principaux ennemis. Donc il est nécessaire de faire croire à un front entre les nationalistes algériens et les communistes français qu'il faut combattre idéologiquement, etc. Et donc c'est une armée très anticommuniste, d'extrême droite, nationaliste, colonialiste, qui va mener cette guerre à partir de 1954. L'armée qui va permettre à De Gaulle d'arriver au pouvoir, c'est cette armée-là, armée coloniale d'extrême droite, très anticommuniste. On va créer un cinquième bureau avec Lacheroy, général Lacheroy, qui est un bureau d'action psychologique, c'est-à-dire de guerre politique, de guerre idéologique, à l'intérieur même de l'armée, comme dans la population algérienne. Alors ça va surtout marcher dans l'armée, et pas tellement dans la population algérienne, qui va être assez peu sensible aux campagnes de propagande de l'armée française, en fin de compte. Hein, ça. Ces comités politico-militaires vont travailler idéologiquement l'armée. Hein, alors dire, vous êtes les fers de lance hein, d'une guerre globale, mondiale, contre le communisme totalitaire. Ce type de discours hein, qui va permettre de sous-tendre l'action de l'armée en Algérie. Alors qu'effectivement, les nationalistes algériens, ils veulent leur indépendance, point. Hein.
Heures troublées en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint.
1er novembre 1954.
Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiefenfell, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
1er novembre 1954, c'est le début de l'insurrection. C'est un groupuscule obscur que personne ne connaît, le FLN, Front de Libération Nationale, qui appelle à l'insurrection et à la révolution. Ce sont des nationalistes qui ont rompu avec le nationalisme plus modéré de Messali Hadj, etc., et des autres, et qui veulent directement passer, comme en Indochine, à la lutte armée et à la révolution, à la subversion du système colonial. La première journée d'insurrection, donc du 1er novembre, dans une dizaine d'endroits d'Algérie, il y a des attentats qui font quelques morts, mais ces gens n'ont pas d'armes, pas d'argent, ils ne sont pas nombreux, et donc c'est plus symbolique, c'est un déclenchement. Mais c'est ces gens-là qui vont être à l'origine de la guerre d'Algérie, enfin des événements d'Algérie, c'est-à-dire qu'ils vont s'étoffer, ils vont s'armer, ils vont trouver des financements, des aides, etc., et ils vont créer une véritable armée, avec des cadres, des officiers, etc., et c'est eux qui vont mener la lutte. Alors au début, comment est-ce que c'est pris en France? C'est pas pris très au sérieux, c'est une bande de terroristes.
Des HLL, comme on disait, des hors-la-loi.
Assez vite, on va également les qualifier de Fellaga, qui est un terme, je crois, employé en Tunisie au départ pour désigner des partisans armés, bon, etc., qui font le coup de main. On traite ça de façon très méprisante, très condescendante. Pierre Madès-France, qui est engagé à cette époque-là dans un processus de pré-indépendance du Maroc et de la Tunisie, fait bien un distinguo en disant « Ah non, l'Algérie, c'est pas le Maroc et la Tunisie, c'est tout à fait différent, ce sont des départements français. » Et d'ailleurs, Mitterrand, qui est ministre de la Justice ou de l'Intérieur, dit « Non, l'Algérie, c'est la France, de Dunkerque à Tamanrasset. »
L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne.
Et puis l'armée, qui a pris sa déculottée à Dien Bien Phu, entend reprendre sa revanche, en fait. Hein. Alors, au début, c'est des opérations de ratissage, des opérations militaires.
Après une première phase qui a permis de rétablir la libre circulation sur les axes routiers, c'est la phase de nettoyage systématique de la montagne que poursuivent maintenant les patrouilles chargées de rendre la sécurité et le calme au massif de l'Aurès.
Mendès France et les libéraux, Edgar Faure, etc., qui sont, je vous l'ai dit, engagés dans un processus de loi cadre à partir de 56 pour l'indépendance des pays d'outre-mer, etc., essayent la modération en Algérie en disant, bon, il faudrait peut-être s'occuper des problèmes sociaux. Parce qu'on découvre, un an après l'insurrection, que les enfants algériens ne sont pas scolarisés, qu'il n'y a pas de dispensaire, qu'il n'y a pas de médecine, que ces gens-là vivent dans une misère épouvantable, ils sont obligés d'émigrer. Et d'ailleurs, il y a une très forte émigration algérienne en France, qui reste dans la République, puisque c'est encore l'Algérie française. Mais enfin, ce sont quand même 500, 600 000 Algériens qui viennent travailler en France. Il y a une misère, il y a un chômage épouvantable. Donc il y a un problème social, il y a un problème économique en Algérie. La prospérité, c'est pas pour tout le monde. C'est sur ce terreau, d'ailleurs, que le nationalisme va gagner. C'est-à-dire sur la misère. Alors, pour couper l'herbe sous les pieds du nationalisme, hein, faut enfin que la République fasse son travail. Mais il est trop tard et trop peu. C'est-à-dire, bon, on va envoyer des instituteurs, des assistantes sociales, on va essayer de s'occuper un petit peu de ces populations délaissées de la République, périphériques. Hein, ça rappelle un peu les banlieues d'aujourd'hui, hein, quelque sorte. C'est quand elles sont en flammes qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème social. Bon. Il est trop tard, le fossé va s'agrandir. Il va y avoir des événements, d'ailleurs, dans l'Est algérien qui vont aggraver le fossé entre Européens et Algériens en face de la révolte et de l'insurrection algérienne. Une partie des populations locales vont d'abord se sentir menacées, ont peur, et la réaction de la peur, c'est la violence, c'est la terreur. Donc, pour un mort français, enfin européen, on va faire 200 morts algériens, on tire dans tout. Hein, y a déjà des milices qui se constituent, qui sont des milices de tueurs. Il s'agit de tuer les ratons, les Algériens, etc., pour les empêcher de relever la tête. Les événements s'enclenchent.
Et avec cette mécanique infernale, hein, c'est que plus on réprime, plus on assassine, et plus ça fait grandir la résistance. Ça, c'est une mécanique qu'on observe dans beaucoup de conflits. Plus tu fais de martyrs, et plus ça apporte de combattants à la résistance.
Il faut dire aussi qu'il y a un contexte français qui est un contexte difficile. Il y a un fort parti communiste qui a 25% des voix, très fort, dont personne ne veut. C'est-à-dire qu'il est isolé depuis le début de la guerre froide de 1947. Il n'est pas question de faire une alliance, jamais. Les plus anticommunistes, d'ailleurs, c'est la SFIO, hein, les socialistes. Hein. Le MRP, c'est la même chose. Personne ne veut des communistes. Donc il faut chercher une solution qui soit une solution sans les communistes. Même Mendès France, quand il prend le pouvoir, il se garde bien de dire qu'il est soutenu par les communistes. Pas question de faire une alliance. Et ça, ça pèse énormément, parce que ça affaiblit considérablement le gouvernement de la 4e République. Ça ne peut être que des solutions, et des solutions avec qui ? Il y a le lobby colonial algérien extrêmement puissant, et puis il y a des gens qui ne veulent pas du tout de l'abandon de l'Algérie, ou même d'un soupçon, des discussions sur l'évolution du statut de l'Algérie. Il n'en est pas question. On nomme fin janvier 55 Jacques Soustel, gouverneur général de l'Algérie. Au début, c'est un homme contesté par les pieds noirs. On le soupçonne d'être de gauche et d'être un copain des bradeurs de Mendès France. Et puis c'est un juif en plus de ça, et comme il y a un antisémitisme quand même assez dominant dans la population pieds noirs d'Algérie, bon, on dit ce type va nous brader l'Algérie comme il a bradé l'Indochine et comme il est en train de brader la Tunisie et le Maroc. Mais petit à petit, Soustelle va séduire les pieds noirs parce qu'il va se mettre dans le courant Algérie française en quelque sorte. Le 5 février 55, le gouvernement Pierre Mendès France, au bout de 7 mois, chute. C'est Edgar Faure, un radical, qui était élu. C'est un opportuniste. Bon, le parti radical n'a pas eu un rôle très grandiose à cette époque-là. Et la situation empire. La France décide d'un état d'urgence en Kabylie et dans les Aurès, qui sont deux régions montagneuses où l'insurrection est particulièrement vivace. On a déjà des milliers de soldats qui sont déjà engagés dans les opérations de maintien de l'ordre. On dit maintien de l'ordre. Jamais le mot guerre d'Algérie n'apparaît. Hein. Alors, il y a événements.
La guerre d'Algérie ne deviendra officiellement une guerre qu'en 1999, quand le Parlement français va voter une loi pour reconnaître ce statut de guerre à ces événements.
Le PC, dès le départ, a une position d'opposition à cette guerre. Il accuse le gouvernement de mener une vraie guerre contre le peuple algérien. Mais il est très isolé. En fait, les communistes ont peur que cette situation d'urgence et de guerre coloniale n'aboutisse à une subversion de droite, d'extrême droite en France. Déjà en mai 1955, les effectifs de l'armée sont portés à 100 000 hommes. Mais il n'y a pas encore beaucoup de gens du contingent. Hein. Il faudra attendre 1956 pour qu'on envoie les gens du contingent, c'est-à-dire les gens qui font leur service militaire, qui ne sont pas des soldats de métier. Les violences augmentent, les tentatives tardives de réformes sociales ne donnent pas grand-chose. On va assez vite passer à une politique de déplacement de population, de déportation, d'enfermement de population dans des zones pour l'empêcher d'être en contact avec les militants du FLN. L'armée, par l'intermédiaire donc du 5e bureau de Lacheroy, donne ce livre à une guerre psychologique tout à fait couverte par l'état-major. Et l'armée apprend. Le marxisme apprend les théories. Je voudrais citer au moins deux hommes qui vont intervenir. Raymond Aron, le libéral Raymond Aron, va apprendre le marxisme aux militaires. Ils essaient de prendre des cours de stratégie communiste, de stratégie marxiste, sur le terrain en quelque sorte. Comment ont fait les Chinois, comment ont fait les Vietnamiens pour battre l'armée française, alors qu'ils étaient moins armés au départ. Mais ils avaient le peuple avec eux. Le problème de l'armée, c'est que l'armée française n'a jamais fait une guerre populaire. Il y a un deuxième personnage qui est Hermann Furtsch, professeur à Munich. On fait venir donc à Paris, à l'école de guerre ou à la Sorbonne pour faire des conférences aux militaires français. C'est un ancien théoricien de l'éducation idéologique de la Wehrmacht. Et il a été officier supérieur nazi, en particulier dans les Balkans, où il a supervisé la guerre politique de la Wehrmacht, c'est-à-dire l'extermination des commissaires politiques, des communistes, et des juifs également par la même occasion. D'ailleurs, c'était confondu, communistes et juifs dans les territoires soviétiques occupés étaient exterminés. Ce sinistre personnage a échappé au tribunal de Nuremberg de justesse pour crime de guerre. Mais il a été reconverti dans la RFA, dans l'Allemagne de l'Ouest, en digne professeur. Et il fait état à Paris de son expérience personnelle dans la lutte contre le communisme. L'armée française, dûment chapitrée, instruite par un ancien nazi pour faire la guerre aux nationalistes algériens. Vous voyez ce nazi se drapant dans le drapeau de la Révolution française pour apprendre à l'armée française à se battre contre les communistes. L'armée française va réagir à cette insurrection algérienne par des procédés d'une grande cruauté, hein, torture, déportation de masse, liquidation sommaire. Toute l'armée, hein, pas seulement les parachutistes, toute l'armée française a participé à cette horrible guerre, à cette atroce guerre d'Algérie. Il y a peut-être un seul homme qui a dénoncé cette violence. C'est Jacques Paris de la Bollardière, général. Le 29 mars 1957, il signe un article dénonçant la pratique généralisée de la torture et de l'assassinat, des exécutions sommaires par l'armée française. Par ailleurs, il y avait à côté, bien sûr, des gens qui dénonçaient, mais c'était des civils, c'était des hommes politiques, etc. Et c'est tout à leur honneur, j'en parlerai. On ne peut pas parler de la politique française sans parler des événements d'Algérie, et des événements d'Algérie sans parler de la politique française. Ils sont intimement liés. C'est pour ça que quand je vois des livres prétendument d'histoire parler de début de la 5e République ou de la fin de la 4e sans parler des événements d'Algérie, c'est un véritable crime contre l'histoire en quelque sorte, car c'est incompréhensible. Les gouvernements qui se font se succéder en France, les derniers gouvernements de la 4e République, de 1956 jusqu'à 1958, sont totalement les fruits des événements d'Algérie. C'est un front républicain qui va devenir majoritaire aux élections législatives du 2 janvier 1956.
Or, ce front républicain est mené par Guy Mollet, le socialiste Guy Mollet, qui s'est fait élire sur des promesses de paix en Algérie. Or, c'est lui qui va envoyer le contingent combattre là-bas.
Notons au passage que, à ces élections, arrive au Parlement un nombre important d'élus poujadistes. l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et artisans de Pierre Poujade, qui est un parti d'extrême droite. On peut dire que c'est en quelque sorte un des ancêtres du Front National de Le Pen. Et d'ailleurs, parmi les députés de l'UDCA, il y a Jean-Marie Le Pen, jeune député de l'extrême droite. C'est une espèce de mélange d'antisémitisme, de nostalgie de l'Empire, d'hostilité à la culture consumériste US. Déjà à l'époque, c'est le repoussoir parfait pour les SFIO, pour le Parti Socialiste, en disant, vous voyez, l'extrême droite, néo-béténiste, etc., on se fait élire non pas pour son programme ou sa belle gueule, mais contre les autres. Un épouvantail utile. Ce Front Républicain qui rassemble le MRP, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, hein, l'UDSR de Mitterrand, qui est une espèce de parti de centre-droit, centre-gauche, assez indéfini, assez fluctuant, un peu comme le Parti Radical, et la SFIO. Ce rassemblement un peu hétéroclite va gouverner, avec pour président du Conseil Guy Mollet, sous le nom de Front Républicain. Il y avait une politique plutôt libérale à l'égard de l'Algérie, une politique de négociation. Un peu confuse, mais enfin, négocier, politique plutôt modérée. Et on pouvait y voir dans ce programme une promesse non pas d'indépendance de l'Algérie, ce serait exagéré, mais au moins de négociation, de discussion. Et effectivement, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Au crédit de Guy Mollet, si on peut dire, il va avoir en face de lui des gens très décidés, des ultras, le complot a commencé en quelque sorte, ça va commencer à Alger.
Ce qu'on a appelé la journée des tomates.
Les journées des tomates, c'est-à-dire que les poujadistes d'Alger, avec Joseph Ortiz, etc., à leur tête, plus des gens des réseaux gaullistes qui sont déjà installés en Algérie, hein, et qui veulent foutre le bordel, ils ont déjà pour objet d'acculer la République et de faire parvenir De Gaulle ou un autre chef militaire au pouvoir. Et lorsque effectivement Guy Mollet, tout début de son mandat, va à Alger pour installer un libéral à la tête du gouvernement général, le général Catroux, qui était un homme de dialogue, puisqu'il avait commencé à négocier l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, donc c'est un homme de dialogue ouvert, etc. C'est lui qui va devenir gouverneur général d'Alger.
En se rendant à Alger où il devait installer le général Catroux, M. Guy Mollet s'attendait certes à un accueil dénué de chaleur. Mais c'est en présence d'une foule surexcitée que le président du Conseil allait passer les troupes en revue. C'est devant un flot humain mouvant et hostile qu'il allait déposer devant le monument aux morts une gerbe aussitôt foulée aux pieds par les manifestants.
Alors c'est l'émeute à Alger. On accuse Guy Mollet et le gouvernement en France de vouloir brader l'Algérie comme on a bradé la Tunisie et le Maroc. Et il va être reçu effectivement avec des tomates en quelque sorte. Il est obligé de se réfugier au palais d'été à Alger, protégé par les gendarmes mobiles et les CRS, parce que le cortège est envahi. Alors ce sont les ultras qui sont là, ce sont les gens du complot déjà qui veulent foutre le bordel de façon à créer une situation de crise. Guy Mollet va être très secoué et comme c'est un socialiste et SFIO qui n'est pas très solide, il va capituler devant les pieds noirs. Il va se coucher en quelque sorte. La SFIO va se faire le complice plus ou moins passif, plus ou moins conscient du coup qui se prépare en Algérie. On poursuit dans le discours au moins la politique de réforme sociale en Algérie, d'assimilation vers l'intégration, etc. Mais en réalité, Guy Mollet fait une déclaration, il dit voilà, il faut d'abord commencer par cesser le feu, ensuite élection, enfin négociation. Il est trop tard. Jamais le FLN va désarmer pour faire des élections qui vont être truquées une fois de plus pour des négociations, c'est-à-dire se mettre en position de faiblesse. Or, dans une négociation, il vaut mieux être en position de force. Donc c'est un refus, évidemment, le FNL refuse, et la guerre se poursuit, et même va s'intensifier, va prendre la forme d'ailleurs d'attentats terroristes à Alger. Les gens du FLN posent des bombes dans les lieux publics, etc., faisant des morts et des victimes, et terrorisant la population européenne d'Alger. Que fait le gouvernement de Guy Mollet, le gouvernement républicain de Paris? Ce gouvernement va donner le pouvoir aux militaires, à l'armée en Algérie. D'abord, on commence par retirer Catroux, trop libéral, et on met à la place un type comme Lacoste, un type de la SFIO, hein, qui est une crapule à la Jules Moc, hein, qui va se mettre au service des ultras et de l'armée en Algérie. C'est-à-dire qu'il va prendre le parti de l'Algérie française, totalement. Et il est le représentant de Guy Mollet, enfin de la République française à Alger. Alors que fait Lacoste et que fait le gouvernement français par toute une série de décrets, de lois, de dispositions? Il livre le pouvoir civil, administratif, judiciaire à l'armée pour mener son combat contre les FLN. Ça va être la fameuse bataille d'Alger de 1957.
À Alger, en prévision de la grève politique ordonnée par les rebelles, un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville.
L'armée, là, va, sans se cacher réellement, va utiliser la torture, les exécutions, etc. On ne sait pas combien de milliers de personnes, aussi bien d'ailleurs des patriotes algériens que des Européens, des Français, qui ont des sympathies pour la lutte nationale algérienne. Il va y avoir des gens torturés, assassinés, etc. Parmi ces personnes européennes, hein, je vais en citer deux quand même, Henri Allègue, qui était journaliste du Parti communiste, torturé pendant des jours par l'armée française, et qui va heureusement s'en tirer, contrairement à beaucoup de gens qui vont être assassinés purement et simplement.
Et témoigner de son calvaire dans ce livre célèbre, La Question.
En fait, La Question, hein, vous savez que c'est comme ça que l'Inquisition et la justice d'Ancien Régime désignaient la torture. Mais mettre à La Question, c'est-à-dire le système de la baignoire, qui consiste à noyer les gens dans une baignoire, c'est très économique en moyens, etc. Et c'est un moyen absolument horrible. Et voilà. Et puis aussi le cas du mathématicien Audin, membre du Parti communiste français, qui va être également assassiné, purement et simplement disparaître. Et il faudra attendre quelques semaines pour que, enfin, la République française reconnaisse qu'il a été assassiné par l'armée. Non seulement l'armée reçoit du gouvernement un mandat pour mener une guerre totale en Algérie, mais en même temps, on prend la décision de mobiliser massivement le contingent, c'est-à-dire les jeunes gens qui font leur service militaire, et on rappelle les gens qui ont déjà fait leur service militaire pour aller en Algérie. On porte le corps expéditionnaire français en Algérie à 400 000 hommes. Les gens qui se font tuer sur place ne sont plus des militaires de carrière, des militaires professionnels. Pour certains d'entre eux, ils reviennent dans une petite boîte en sapin. Moi, j'ai des enfants à cette époque-là, et j'ai bien vu des familles endeuillées par leur fils qui revenait dans un cercueil. Ça va sans doute faire évoluer la population française. La population française veut la paix en Algérie. Coupure quand même assez nette entre la population française d'Algérie et la population de métropole, qui, alors bien sûr, il y a toute une droite en France qui est pour le conserver l'Empire, conserver les colonies, conserver l'Algérie française, mais elle est minoritaire. Majoritairement, l'opinion française penche vers la paix, alors qu'on est en train de s'engager dans une guerre totale. Le gouvernement de Molé semble en contradiction, en tout cas, avec une partie importante de l'opinion française, et des communistes en particulier. Et ils vont même s'engager dans une autre opération coloniale. Dans la fameuse crise de Suez, on envoie un corps expéditionnaire français et anglais. À l'été, à l'automne 56, on envoie les militaires français reprendre la zone du canal. Nasser a eu le front, la l'outrecuidance de nationaliser la compagnie du canal de Suez et de reprendre possession du canal de Suez qui passe en Égypte. Donc c'est une opération coloniale. Alors toujours au nom de la défense de l'Occident contre Nasser, considéré comme un nouveau Hitler, etc. D'ailleurs les Israéliens sont dans l'opération, hein. Il s'agit pour eux de mettre la main sur d'autres territoires égyptiens, etc. Bon.
La 4ème République se décompose dans les violences de la guerre d'Algérie. Militaires factieux, groupes d'extrême droite de l'Algérie française, espions gaullistes, l'époque grouille de complots visant à abattre la République. Bientôt, le 13 mai 58, des comploteurs, militaires en tête, vont prendre le contrôle d'Alger. Et c'est depuis la colonie algérienne en sédition que l'armée française va menacer la République et la métropole, depuis l'Afrique du Nord, comme le dictateur Franco le fit lors de son putsch de 1936.
Les complots, alors il y a plusieurs complots, il n'y a pas un seul mouvement destiné à faire un coup d'État en France. On va séparer en deux, il y a les réseaux gaullistes, c'est-à-dire ces réseaux, ils vont s'appuyer sur l'extrême droite, les ultras, les fascistes qui sont pour la continuation de la guerre, ou en tout cas la continuation de l'Algérie française, mais eux veulent le retour de Gaulle, ils veulent profiter de la crise algérienne pour faire revenir De Gaulle au pouvoir. Et mais il y a plein d'autres réseaux qui sont des réseaux carrément néo-fascistes, aussi bien dans l'armée que dans la population civile européenne d'Algérie, péténistes, néo-fascistes, ultra-droite, nationalistes, etc., qui, eux, travaillent également pour leur compte, et qui sont puissants également, qui sont capables de mobiliser une partie de la population des Européens d'Alger. Il y a les étudiants d'Alger de la Gaillarde, il y a le mouvement d'Ortiz dont on a parlé, mais également toute une foultitude d'autres mouvements d'extrême droite qui grenouillent, qui veulent l'appui de l'armée pour provoquer un renversement des institutions républicaines à Paris. Ils veulent un gouvernement d'exception. Alors ils vont le baptiser gouvernement de salut public. En fait, ça masque le renversement de la 4ème République et l'institution d'un régime fort. Alors ils ne sont pas tous d'accord sur l'homme qui va représenter ce régime fort. Les gaullistes, évidemment, sont pour De Gaulle, mais les autres, c'est beaucoup moins évident. À la suite de la bataille d'Alger, la popularité de Massu et de ses paras est au plus haut point. Il y a, parmi la population européenne d'Algérie, et pieds noirs, etc., une véritable culte des parachutistes qui sont considérés comme les véritables héros et qui vont, eux, nous débarrasser de ce régime républicain à ONI, influencé par les communistes, etc., etc.
Les paras accumulent les succès. Le plus célèbre de leurs colonels, Bijard, explique leur rôle.
Le plaisant de guerre, pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour voir l'évolution de ces gens-là. À mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer.
Donc l'armée française, comme la plupart des armées, a du sang sur les mains. La responsabilité, elle incombe aux politiques. Je dis ça parce que c'est facile de montrer du doigt le vilain para tourneur de Gégène, mais les véritables coupables sont les politiques. Et en l'occurrence, là, c'était la SFIO, le PS de l'époque, Guy Mollet, Mitterrand et sa bande. C'est eux qui se sont déchargés sur les militaires et qui leur ont fait jouer le sale rôle par lâcheté.
Bien sûr. D'ailleurs, il y a quelques années, le général Ossarès, qui avait été un des généraux responsables de la bataille d'Alger, d'abord, il a reconnu qu'il y avait la torture généralisée pendant la bataille d'Alger en 57. Mais il a mis en cause, effectivement, les hommes politiques. Qui a donné le pouvoir aux militaires en Algérie? C'est le gouvernement de la 4ème République, et en particulier celui de Guy Mollet et de ses alliés politiques, MRP, radicaux, etc. Par anticommunisme, tout sauf les communistes. C'est ce qui dirige l'action de ces gens-là. Les discours, d'ailleurs, sont sans aucune ambiguïté. Il s'agit d'empêcher les communistes de profiter d'une guerre civile ou de profiter d'événements qui pourraient les amener au pouvoir. Et par un anticommunisme fanatique, il n'y a pas d'autre terme, ces gens-là vont sacrifier la République. De Gaulle va arriver au pouvoir parce qu'il ne faut pas que les communistes puissent profiter d'une manière ou d'une autre politiquement de la crise politique. Donc c'est le 21 mai 57 que Guy Mollet est renversé, et vont se succéder toute une série de gouvernements éphémères à Paris. On arrive au printemps 58 dans une atmosphère d'anti-parlementarisme, d'agitation d'extrême droite, qui évoque tout à fait la situation de février 1934, où les ligues d'extrême droite avaient failli prendre le pouvoir, renverser la Troisième République, et avaient provoqué, en réaction de la gauche française, le Front populaire. Mais là, il n'y a pas de Front populaire. Entre communistes et socialistes, il y a un fossé qui n'est pas prêt de se combler, puisque les communistes proposent en permanence aux socialistes une alliance républicaine, etc. Les socialistes ne voulaient surtout pas de la queue d'un communiste dans un gouvernement ou dans des responsabilités politiques, etc. Donc il n'y a pas eu de vraie riposte. Il y a eu tout simplement les partis politiques non communistes qui se sont couchés devant les paras et De Gaulle. Toute cette période également marquée par l'armée qui en prend à ses aises avec le gouvernement civil, qui s'est quasiment détaché du gouvernement civil. Avant même l'insurrection du 13 mai, qui est une véritable sécession du pouvoir civil et militaire d'Alger par rapport à la République française, l'armée prend elle-même ses décisions. C'est elle qui décide d'intercepter l'avion qui menait les dirigeants nationalistes algériens de Rabat à Tunis. Donc c'est un acte de piraterie. On met la main sur l'avion, on met en prison les dirigeants, dont Ben Bella, le futur premier dirigeant nationaliste de l'Algérie indépendante. C'est également la même chose que pour 8 février 58, l'affaire de Sakiyat Sidi Youssef. C'est un petit bled de Tunisie à la frontière. À un moment donné, il va y avoir un tir de DCA de l'armée algérienne, l'armée de libération nationale, contre un avion français. Donc l'aviation française va de son propre chef, sans aucune autorisation, bombarder un bled de Tunisie. Or la Tunisie est indépendante déjà à l'époque. Elle a été indépendante en 1956. Et donc on bombarde donc un pays avec lequel on n'est pas en guerre. C'est un acte de brigandage international. Alors bien sûr, ensuite, après, l'armée est couverte par les responsables politiques français, mais on voit qu'ils sont déjà dépassés. Nous sommes le 8 février 1958. Les milieux gaullistes se déchaînent. Michel Debray dénonce les pressions américaines inacceptables, demande un gouvernement fort contre la menace communiste, dit qu'il n'y aura aucune concession faite au FLN, dénonce la trahison des politiciens, etc. Enfin, donc, il y a une agitation politique extrême. On demande un gouvernement exceptionnel. Ça veut dire un renversement des institutions et du fonctionnement de la 4ème République. Hein. Il y a un fort écho dans les forces armées. Il y a une agitation. Beaucoup d'officiers de l'armée en Algérie veulent un changement de régime à Paris. Le 13 mai 58, l'arrivée de De Gaulle, c'est déjà dans la seringue, en quelque sorte. Hein. Là commence vraiment l'organisation du complot. Alors, Jacques Chaban-Delmas, qui est ministre des armées, prend les dispositions en Algérie comme en France pour préparer ce coup d'État. Il change le patron du 5e bureau, il met à la place Léon Delbecq. Souvent, ces gens-là sont des anciens des services de renseignement gaulliste pendant la guerre, des gens proches de De Gaulle. On pourrait d'ailleurs donner les noms des principaux comploteurs, des principaux collaborateurs de De Gaulle dans l'opération. Il y a Jacques Faucard, qui sera l'homme de De Gaulle dans les anciennes colonies françaises, dans le néocolonialisme français.
Jacques Faucard, le grand artisan de ce qu'on appelait la France-Afrique.
Des coups tordus, des assassinats politiques, c'est un barbouze.
Ça permettait à De Gaulle d'avoir la figure propre pendant que Faucard exécutait les basses œuvres. Il paraît que son bureau à Faucard était juste contigu à celui de De Gaulle. Hein.
Oui, mais les affaires africaines d'ailleurs étaient une sorte de prérogative présidentielle à l'époque de De Gaulle. Ça va le rester d'ailleurs assez longtemps. Il y a Debray, évidemment. Il y a aussi Roger Frey, qui est un ancien collaborateur de Soustelle. Soustelle est un homme de De Gaulle aussi. Et il y a Olivier Guichard, qui est secrétaire particulier de De Gaulle, plus un certain nombre. Donc Delbecq est à Alger, et il y installe une antenne semi-clandestine du ministère de la Guerre. Mais il faut faire une hiérarchie parallèle, une structure organisationnelle agissant en corrélation avec le ministère, mais indépendante. Il y a un ministère bis gaulliste à l'intérieur du ministère de la Guerre. Vous voyez à quel niveau se fait le complot. Il se fait pas au niveau des cabaretiers d'Alger, hein. C'est autre chose. Et Delbecq installe des relais dans la scène activiste d'Alger. Il y a des agents gaullistes. Tout ne va pas pour le mieux au départ, parce que il y a un chef de l'armée en Algérie qui s'appelle Salan, plutôt républicain, précautionneux. Il veut pas s'engager comme ça et il est méfiant à l'égard de De Gaulle. Alors, on crée un comité de vigilance gaulliste, avec les poujadistes pétainistes, criminels de droit commun, etc., et tout ce grenouillage de l'extrême droite à Alger. Mais les gaullistes, le réseau gaulliste des barbouzes gaullistes n'est pas seul sur la place. Il y a aussi une extrême droite, hein, Henri Martin, etc., ancien membre de la cagoule de l'avant-guerre, enfin, et des néo-fascistes de toute tendance, hein, qui sont là, et qui sont pas des agents de De Gaulle, et dont il va falloir se débarrasser d'une manière ou d'une autre, ou écarter. La tactique de De Gaulle va être effectivement de rester peu visible. Ce sont ses partisans qui travaillent pour lui. Mais lui n'apparaît pas. Il ne veut pas apparaître comme celui qui arrive au pouvoir sur les épaules des parachutistes. Il ne veut pas être stigmatisé comme étant l'homme du putsch, qu'il organise lui-même. 15 avril 58, chute du gouvernement Félix Gaillard. Et là, les réseaux gaullistes entrent en action. Le 26 avril, Delbecq, avec le groupe Martel, les anciens combattants, décide d'une manifestation à Alger contre l'abandon de l'Algérie française. Pour avoir le soutien des ultras d'Algérie et d'une partie de l'armée, etc., il est nécessaire au réseau gaulliste de faire semblant d'être à fond pour l'Algérie française. Il est probable d'ailleurs que beaucoup de gaullistes étaient effectivement partisans de l'Algérie française. Mais enfin, ils s'engagent quand même avec des gens qui sont des ultras de l'Algérie française. Donc il y a une grosse manif à Alger, 15 000 manifestants que l'armée refuse de disperser. Alors ils vont au monument aux morts, il y a un serment, il y a une motion qui est envoyée au président de la République, René Coty, pour créer un gouvernement de salut national. Delbecq est expulsé d'Algérie par Lacoste. Lacoste n'est pas prêt à faire le lead de Gaulle. Il a fait le lead des généraux qui vont amener De Gaulle au pouvoir, mais il n'est pas d'accord pour amener tout de suite De Gaulle au pouvoir. Mais très très vite, Delbecq est remplacé par Neuwirth, Lucien Neuwirth. C'est également un ancien des services spéciaux de De Gaulle. Il est en contact en permanence avec De Gaulle. Donc il arrive à Alger le 3 mai. Et il y a encore une crise de gouvernement à Paris. Donc ça, c'est bon pour De Gaulle. Vide politique. Ça merde, quoi. On n'arrive pas à trouver le bon gouvernement à Paris face à la crise algérienne. Alors le 5 mai, le président de la République française, René Coty, envoie le général Ganneval, chef de son cabinet militaire, conféré avec Guichard, secrétaire de De Gaulle, et Gaston de Bonneval, aide de camp de De Gaulle. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des contacts qui sont déjà pris par Coty. Mais c'est toujours la crise. Alors, il y a des contacts qui sont pris le 7 mai, Chaban et le général Elly, qui est chef d'état-major des opérations en Algérie, à Philippeville, très représentatif de l'armée. Il est conscient du clivage dans l'armée. Hein. Il y a des clivages entre les ultras, les gens qui sont favorables à un changement de gouvernement à Paris, qui sont pour De Gaulle, beaucoup pour De Gaulle quand même, mais pas tous. Hein. Il y a des gens qui sont à l'extrême droite. Hein. Et puis il y a des gens qui sont pas du tout politiques. Il y a des gens qui ne veulent pas intervenir dans les affaires de la République. Hein. Il y a à l'intérieur de l'armée des opinions extrêmement différentes. Le 10 mai 58, De Sérigny, propriétaire de l'Écho d'Alger, qui est un péténiste, non repenti, donc, demande que De Gaulle sorte de son silence. Il y a un appel à la manifestation. En fait, cet appel à la manifestation, au départ, vient d'un appel de Salan, chef des armées en Algérie, qui décide de faire une cérémonie commémorative le 13 mai, en souvenir des militaires français tués à Palestro par le FLN. Alors le 13 mai, il y a un grand rassemblement, c'est là que tout démarre, il y a un grand rassemblement plateau des Glières. Alors les comités gaullistes se mettent en action. Il s'agit d'aller au gouvernement général d'Alger et peut-être de prendre possession du bâtiment. Le problème, c'est que c'est l'extrême droite ultra, la Gaillarde, Ortiz, etc., qui va les devancer, qui va enfoncer les grilles avec la complicité des parachutistes, etc. Ils rentrent dans le bâtiment, ils foutent tout en l'air, ils brûlent les papiers, des trucs comme ça. Assez vite, les gaullistes vont réagir parce que ils veulent pas être pris quand même de court. Ils rentrent également dans le bâtiment et il y a sur place des gens qui vont s'avérer fidèles à De Gaulle, comme Massu, par exemple. C'est Massu, d'ailleurs, qui va prendre la tête de ce gouvernement de salut public qui va se créer à l'époque. Assez vite, à Neuwirth, les gaullistes vont reprendre le truc. Il s'agit de convaincre Salan d'appeler De Gaulle au pouvoir. Le complot se met en place sous le nom de Opération Résurrection.
Ce peut être le début d'une espèce de résurrection. 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 Résurrection.
Parce qu'il y a un véritable plan de subversion militaire de la France. Ce plan, c'est maintenant un secret de Polichinelle. À l'époque, évidemment, il est secret, ou en tout cas, il est dans des cercles assez fermés. Mais maintenant, on sait en quoi il consiste, le document a circulé. Il s'agit de, pour une partie des unités de l'aviation et des parachutistes aéroportés, etc., d'intervenir en France avec l'aide d'ailleurs de casernes de CRS. Hein. Les compagnies républicaines de sécurité vont se mettre au service d'un coup d'État. Hein. Je dis ça comme ça au passage. D'ailleurs, dans la police française, il y a énormément de gens d'extrême droite et de gens des ultras et des gaullistes aussi, bien sûr, et pour assurer le succès de l'opération. Cette opération n'aura pas lieu. Elle ne sera pas nécessaire, en fait. De Gaulle sait qu'il y a cette opération, en dernier lieu, mais il répugne à l'utiliser. Et il ne sera pas nécessaire de l'utiliser. La grande habileté du coup d'État de De Gaulle et de ses amis, c'est de menacer la République d'un coup d'État réel, militaire, mais d'attendre que la République s'effondre tout seul. Alors effectivement, ça va être une période, tout la fin du mois de mai, ce sont des contacts, qu'est-ce que vous allez faire mon général? Les hommes politiques, Guy Mollet en tête, mais les autres aussi, Coty, Flimelin, etc., vont aller voir, alors qu'est-ce que vous faites De Gaulle? Il se fait désirer. Certes, on va quand même faire un petit coup d'état en miniature en Corse. Le 24 mai, l'armée débarque en Corse.
Lâché de parachutistes.
Oui, lâché de parachutistes, mais on prend les préfectures, c'est-à-dire qu'on prend la direction de la Corse, une sorte de sécession de la Corse, comme il y a eu une sécession d'Alger. Le pouvoir en Corse échappe à la République française. C'est un petit avertissement en disant, vous voyez, on peut faire ça en plus grand, en quelque sorte. Et De Gaulle veut apparaître comme celui qui épargne la guerre civile, en quelque sorte. Il veut donner une apparence légale à ce qui est un coup d'État. Donc il veut que les institutions légales de la 4e République abdiquent sans avoir l'air de céder le couteau sous la gorge, en quelque sorte. Et c'est ce qui va se passer. Alors, ceci est d'autant plus facile pour De Gaulle que ces gens qui vont l'appeler, c'est-à-dire tout le monde sauf les communistes, ont tellement peur de faire le jeu du Parti communiste, tout sauf les communistes, donc De Gaulle est l'homme providentiel qui leur fait échapper et d'un coup d'État d'extrême droite militaire et de l'autre, la subversion communiste en quelque sorte. Et c'est comme ça que De Gaulle arrive au pouvoir. Il va être appelé au pouvoir par le président de la République.